Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Opéra de Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui avec Claire Danquan, metteuse en scène de Rinaldo de Handel, opéra qui sera donné à l'Opéra de Rennes avec le Banquet Céleste du 27 septembre au 3 octobre. L'histoire est celle de Godefroy de Bouillon promettant à Rinaldo, sa fille, qu'il aime et qui est aimé par elle s'il participe à sa croisade pour reconquérir Jérusalem aux mains des Sarrasins. Une histoire qui fait intervenir l'histoire, mais aussi beaucoup la magie chez les chrétiens comme chez les Sarrasins autour de l'enlèvement de la jeune femme Almirena. Claire Danquan, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, c'est votre premier opéra après de nombreuses mises en scène de théâtre. Est-ce que c'était une volonté d'aller à l'opéra ou est-ce que c'est Rinaldo qui vous plaisait avant tout? Et je trouve que c'est un opéra, donc vous êtes mise à l'opéra.
Non, j'avais déjà travaillé avec des spectacles lyriques qui étaient, par exemple, j'avais monté un spectacle qui s'appelait Spartacus dans des arènes, qui a même joué dans la rue, etc., où il y avait des chanteurs, en fait. Et là, ça a été la proposition de mettre en scène un opéra. Donc, c'était pour moi extrêmement impressionnant, déjà, parce que je suis vraiment nullissime en musique. Donc, c'est aborder un monde qui m'était complètement étranger, en tout cas.
C'est un défi, du coup, passionnant à relever.
C'est totalement passionnant. Ah oui, ça a été au départ très angoissant, et puis finalement, enfin, un vrai grand plaisir, mais oui, d'être sur des scènes avec des chanteurs qui sont complètement incroyables. Donc voilà, c'était oui, une très très belle expérience, c'est certain.
Vous l'avez dit, c'était un monde un peu différent, celui de l'opéra, par rapport à celui que vous avez l'habitude de fréquenter, notamment par la musique qui impose son rythme, qui impose quand même quelque chose à la metteuse en scène que vous êtes. Comment est-ce que vous êtes débrouillé de cela, au-delà du fait que ce soit une musique vieille de 300 ans, le fait simplement qu'il y a de la musique, donc les chanteurs, ils ont leur propre manière et temps pour dire leur réplique, et puis des fois, il y a juste de la musique et il n'y a pas de chanteur.
En fait, c'est très compliqué sur le timing des choses. Le timing qu'on a au théâtre n'est pas du tout le même. Les temps sont plus longs, on continue une scène jusqu'à pas d'heure s'il le faut. Enfin, alors que là, tout est franchement très timé et c'était un petit peu perturbant au départ. Et puis les chanteurs n'étaient pas tout le temps là aux répétitions, tous ensemble. On peut pas savoir le début et la fin et faire de continuer comme ça. Donc on travaillait par moment, enfin selon les disponibilités, tout ça. Donc ça demandait un tout autre travail de préparation pour moi, en tout cas d'avoir ce fil rouge. Mais j'ai beaucoup appris aussi, parce que je vois maintenant dans les nouvelles mises en scène de théâtre que je fais actuellement, enfin ce timing comme ça, très carré finalement, qui m'avait autant déstabilisé au début, me plaît beaucoup. Et je travaille un peu comme ça maintenant au théâtre, en disant voilà, de telle heure à telle heure, telle scène, de telle heure à telle heure, telle scène. Donc il y a une rigueur que j'ai beaucoup appris là-dedans.
Il vous fallait des contraintes, des règles assez strictes pour finalement vous puissiez vous en débrouiller et puis trouver une liberté, créer une liberté à l'intérieur de ces contraintes.
C'est une contrainte maintenant, des libertés. La complexité de Rinaldo quand même, c'est des airs qui durent des heures. Quand même, enfin, c'est pas vrai, pas décourager les gens, mais ça dure très longtemps. Donc, que faire pendant 10 minutes où finalement le personnage dit seulement je pars à la guerre, mais il le dit pendant 10 minutes.
L'opéra, effectivement, l'art du chant, mais l'art aussi de la répétition, parfois des répliques, ou des répliques qui mettent beaucoup de temps à être prononcées.
Mais oui. Alors, il faut se laisser aller. Enfin, c'est lâcher prise aussi pour moi, quand même, qui suis du théâtre, même du théâtre épique que j'ai fait beaucoup. C'est aussi de se dire, bon, c'est le chant d'abord. Donc, pas la peine non plus de mettre tous les deux minutes des effets visuels. Ça ne sert à rien. Je suis allé beaucoup à l'opéra depuis, et puis c'est vrai que des mises en scène trop chargées me gênaient, moi, spectatrice, c'est-à-dire me gênaient pour entendre. Et je pense qu'il faut laisser vraiment, oui, voilà, c'est la musique en premier. Donc il n'y a jamais eu, avec le chef d'orchestre, jamais de... Enfin, c'était très agréable de travailler ensemble, toujours.
On reviendra sur votre travail ici avec Damien Guillon, parce que c'est une reprise d'un spectacle que vous avez créé en 2018 avec d'autres musiciens que ce Rinaldo de Handel. Mais je le dis, c'est une musique qui date il y a 300 ans. Est-ce que là aussi, ça vous a interrogé, Claire Danquan, de savoir quoi faire dans la mise en scène par rapport à cette musique qui, elle, et datée, qui, elle, renvoie à un autre imaginaire et un autre temps que celui d'aujourd'hui.
Ah non, c'est pas la musique qui m'a du tout... C'était plus de comment on réintègre cette histoire dans quelque chose d'un peu plus contemporain, tout de même. Puis, j'avais pas trop envie non plus, on avait vraiment travaillé là-dessus avec le chef d'orchestre, Bertrand Cuiller, à ce moment-là, sur ne pas aller dans les guerres de religion non plus. C'était pas intéressant, donc on a coupé quand même hein, sur Rinaldo par rapport à sa version initiale, en essayant de, enfin pour moi en tout cas, de gommer cet aspect-là.
Pour quelle raison ? Parce qu'on peut dire comme c'est curieux, puisqu'a priori c'est comme une croisade, c'est comme une histoire entre des chrétiens d'un côté et des sarrasins de l'autre, donc on pourrait se dire la guerre de religion, elle est au centre, mais même dans la partition originelle, la guerre de religion n'est pas aussi présente qu'on pourrait le supposer.
Non, c'est pas présent en fait, on a plutôt une bataille entre des personnages qui sont les bons et les méchants. Et j'ai voulu les laisser en tant que tels, c'est-à-dire largement bons, méchants, mais dans leur humanité et pas dans leur religion. Je trouvais que c'était vraiment une grave erreur d'ailleurs. Et donc on est plus parti sur ces caractères-là de personnages.
Ça veut dire que vous auriez abordé cet opéra Rinaldo par l'histoire d'amour plus que par le contexte historique qui est en toile de fond ?
Oui, c'est épique. L'histoire d'amour, je la trouve aussi un grand prétexte, finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un lieu de bataille, mais c'est aussi un combat entre la lumière et les forces obscures, on va dire. C'est-à-dire que il y a ces personnages qui sont versés dans la magie noire pour gagner la guerre, et les autres qui sont plutôt sur des croyances de générosité, etc. Donc c'est plutôt ce combat entre l'ombre et la lumière. J'ai trouvé intéressant à traiter, finalement, visuellement.
Donc la dimension surnaturelle, parce qu'effectivement, il y a des magiciens dans les deux camps, le camp chrétien et le camp sarrasin. Il y a le chant des sirènes, c'est-à-dire qu'il y a tout un bestiaire et tout un imaginaire qui vient percuter le réel et qui vous, la metteuse en scène qui aime le bricolage, qui aime les machines, qui aime les déguisements. Du coup, là, vous avez pu vous exprimer pleinement.
Oui, moi, je travaille beaucoup avec de l'objet, en fait. Et l'objet comme qui donne sens, qui raconte aussi une histoire, quel objet. Et en même temps, c'était une belle opportunité aussi, parce que la marionnette contemporaine, par exemple, est très très peu utilisée à l'opéra. C'est rarissime, tout de même. Bon, là, c'est pas de la marionnette, il y a l'utilisation de la machine, mais il y a quand même une scène, justement, vous parliez des sirènes, avec justement des marionnettes, là pour le coup.
Il y a des marionnettes, il y a des dragons, il y a, allez, on le dit pas, mais on l'évoque rapidement, il y a un petit passage de quelques secondes de rock avec des instruments anciens qui, moi, m'a fait vraiment rire sur votre choix de mise en scène. Mais il y a aussi tout cet imaginaire-là, comment justement vous l'avez utilisé pour qu'il soit justement au service de l'histoire, pour que ça ne soit pas trop démonstratif et que ça ne sorte pas du récit général.
C'était sobre, enfin, je suis allé quand même franchement vers la sobriété. On aurait pu remplir d'objets, de décors, etc. Là, les choses sont quand même extrêmement épurées. C'est vrai que, après, par exemple, la rencontre entre Almirena, Rinaldo, qui est une petite scène poétique, très longue, où ils se disent « je t'aime » et « oui, moi aussi, je t'aime et moi aussi ». Et donc, c'est très long. Donc, comment faire de tout ça quelque chose qui soit quand même aussi assez drôle. Enfin, moi, j'aime bien aussi, par certaines machines ou par certaines situations, injecter un peu d'humour aussi là-dessus.
Pour l'avoir vu, je peux vous garantir qu'il y en a un paquet d'humour dans votre proposition de Rinaldo de Handel, Claire d'Ancoine. Mais je voudrais revenir quand même sur les objets que vous avez fabriqués, les monstres, les créatures, les costumes et les maquillages qui sont extrêmement importants aussi dans la proposition que vous faites. Comment vous les avez travaillés ? Parce que on sait tous que c'est du faux et pourtant ça rentre dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez joué aussi avec la complicité des spectateurs.
La complicité des spectateurs, elle vient de leur imaginaire, de leur générosité aussi. Là, le dragon, bon, je veux dire, tout le monde voit les roulettes, tout le monde voit les câbles, mais tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de voir ce dragon qui arrive et la puissance du personnage qui est au-dessus. Donc il y a une simplicité technique qui est un cheval, par exemple, il n'est pas fait avec vraiment toute sa peau, etc. C'est quelques boulons et quelques ferrailles, avec du volume bien sûr, mais qui donnent l'idée d'un cheval de guerre, par exemple. On n'est pas forcément dans une représentation très, très importante. Voilà.
De l'évocation, qui a mi-chemin entre ce que cela doit évoquer et puis l'imaginaire par la manière, par les couleurs que vous utilisez, les objets que vous utilisez.
Oui, c'est ça. Je pense que le spectateur a une grande part d'imaginaire aussi là-dedans. Après, pour ce qui est des costumes, c'est la costumière qui a vraiment proposé, elle, son univers. Donc, on travaille un petit peu ensemble, bien sûr, hein, pour être dans la même histoire, tout le monde, bien sûr. Mais c'est vraiment son univers. Après, moi, je travaille beaucoup avec du masque, habituellement. Donc, là, je m'étais posé quand même la question, mais qui n'a pas duré 2 minutes. Puisque les chanteurs m'ont dit, ah non, non, pas de masque, ça, c'est pas possible. Donc voilà, on est plutôt sur un travail de maquillage de ce fait.
C'est intéressant ce que vous venez de dire. Alors évidemment, les masques ne renvoient pas à notre actualité, mais aux masques du théâtre qui remontent à la nuit des temps. Ça veut dire aussi qu'il vous a fallu composer ici avec les capacités des chanteurs. Et puis ce que le chant lyrique, ce qu'il conditionne en termes de quel costume on porte, quel geste de mise en scène on va faire.
Oui, oui, ça a été aussi très... très étonnant. Pour que le monde de l'objet, enfin le théâtre d'objet et les acteurs se rencontrent, ça demande aux acteurs un type de jeu un peu particulier. Pas mécanique ni mécanisé, mais tout de même, il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup d'angles. Ce qui fait que machine et humain, enfin, on reste dans le même monde, ça je voulais dire. Là, c'est extrêmement difficile, puisque les chanteurs ne peuvent pas physiquement... être sur des angles, des ruptures, etc., etc. Donc oui, bien sûr, j'ai dû adapter, mais c'est agréable aussi, finalement.
Une autre contrainte avec laquelle vous avez réussi à composer Claire d'Anquan, et donc c'est un opéra initialement baroque, hein, Handel, les années 1800. Le baroque aussi renvoie une forme d'exubérance, renvoie aussi tout un imaginaire visuel. Est-ce que vous en êtes servi? Est-ce que vous avez puisé dans cet imaginaire-là pour inventer votre propre mise en scène?
Non, je dirais que je me suis senti comme un poisson dans l'eau, justement, là-dedans. Parce que même dans les spectacles de théâtre que je fais, même via l'objet, enfin, tout le monde s'accorde à dire que c'est un théâtre baroque aussi, dans la multiplicité, dans ses mécanismes, dans les trucages, enfin, de la machinerie du théâtre comme l'était au moment d'Endel. Donc, et moi j'aime bien, voilà, j'en rajoute toujours des caisses dans le visuel, mais non, donc ça c'était pas, je me suis senti vraiment bien justement là-dedans. Ouais.
Alors c'est une mise en scène que vous reprenez, que vous avez créée en 2018 ici avec de nouveaux musiciens, le Banquet Céleste dirigé par Damien Guillon. Comment le fait qu'il y ait de nouveaux musiciens dans l'aventure a changé votre mise en scène? Et puis peut-être est-ce que le temps d'entre 2018 et 2021 a pu apporter quelques modifications à la mise en scène que vous aviez créée?
Pour les musiciens, j'ai rencontré bien sûr Damien, mais on s'est rencontré seulement hier et on n'a pas encore répété avec les musiciens pour l'instant. Donc ça, je ne peux pas vous répondre, mais c'est vrai que de revoir, reprendre les choses, j'ai envie de changer bien sûr plein de choses, mais je crois que ce ne sera pas possible. Mais on améliore, c'est-à-dire que même en lumière, voilà, on se dit, ah mais tiens, c'est peut-être l'occasion d'affiner un petit peu ce rapport-là, on pourrait, tiens, rechanger des déplacements, là je préférerais que tu arrives plus vite, là voilà, on change des petites choses, mais pas tant non plus.
À découvrir donc à l'Opéra de Rennes du 27 septembre au 3 octobre, Handel de Rinaldo dans votre mise en scène, Claire d'Anquan. Merci beaucoup à vous.
Merci et puis à bientôt.
C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.